Chapitre 12. Bien qu'ils ne fissent jamais la moindre allusion au malentendu qui les torturait tous les deux, Madame d'Agincourt et son fils, que la même obsession tenaillait sans cesse, en étaient arrivés à éprouver l'un pour l'autre des sentiments de défiance et de sourde rancune qui ressemblaient fort à de l'hostilité. Aussi, lorsque le jeune homme revint de Lunéville, après avoir rendu les derniers devoirs à son oncle, le premier mot qu'il échangea avec sa mère amena-t-il un orange. Ils se reprochèrent réciproquement leur aveuglement et leur entêtement. Et après quelques minutes d'une discussion fort pénible, ils se séparèrent plus aigris que jamais, Henri décidé à pousser rapidement son mariage avec Angèle, la mère résolue à tout faire pour empêcher cette folie. Le même jour, au sortir de son bureau, le garde général rencontra Valérac. Le vieux maniaque lui apprit que le cousin Chabran avait eu une grosse émotion en apprenant la mort soudaine de son ami d'Agincourt. « Il ne croyait pas, mon cher, que vous hériteriez aussitôt. »« Et maintenant, interrompit Henri, il ne demanderait pas mieux que de me donner sa fille. C'est un peu tard, puisque je me marierai bientôt. » « À ce propos, j'attends de vous, dans cette circonstance, un service, celui de me procurer des témoins. » Valérac regardait le jeune homme d'un air ahuri. « Vous rêvez, monsieur d'Agincourt, dit-il, ou bien c'est que votre mère consent ?»« Non, non, ma mère ne consent à rien, » fit Henri en baissant la tête. « Mais elle consentira, » ajouta-t-il en se redressant fièrement. « Au revoir, je vous quitte, on m'attend. Je compte sur vous, n'est-ce pas? C'est entendu ?» Et après avoir serré les mains de l'excellent vieillard, le garde général se dirigea rapidement vers son appartement du quai des Chartrons. Angèle y était déjà, assise sur une chaise près de la fenêtre, à regarder distraitement les passants, très calme en apparence. Mais ses yeux rougis attestaient qu'elle avait subi une crise douloureuse. C'était ce jour-là qu'il avait été convenu qu'elle parlerait à sa mère de leur projet de mariage. Le jeune homme ne l'avait pas oublié. Tout de suite, il interrogea d'un ton anxieux. « Eh bien, quel résultat? Quelle réponse ?» La jeune fille fit un mouvement de tête affirmatif, très énergiquement affirmatif, qui signifiait « Oui, oui, ma mère consent à ce que je sois votre femme. » Comment n'accepterait-elle pas avec empressement un si grand honneur ? Mais cette réponse, qui se devinait sur sa physionomie, elle n'osa pas la formuler, elle n'osa pas rapporter leur entretien, dire l'explosion de joie triomphale, de vanité grossière, d'ignoble cupidité, de basse convoitise par laquelle sa mère avait accueilli sa proposition. Cela avait si vivement froissé ses délicatesses qu'elle en demeurait encore le rouge au front, la bouche close par un souvenir de dégoût. Henri connaissait trop bien sa maîtresse pour ne pas lire sa pensée dans ses yeux. Il comprit par quel sentiment d'exquise pudeur elle gardait le silence. Et, attendri, reconnaissant, il lui prit les mains, les retint longtemps dans les siennes, les couvrant de baisers. « Et vous, votre mère ? » demanda-t-elle au bout d'un instant. « Oh, ma mère est toujours intraitable !» soupira le jeune homme. Ils baissèrent tous deux la tête et demeurèrent longtemps silencieux, anéantis, brisés, comme s'ils allaient renoncer à une lutte qui devait leur attirer tant de tracas. Puis l'heure les sépara de nouveau. Et tandis que le garde général s'acheminait tristement vers la rue du Palais Gallien, Angèle resta errer sur les quais, n'osant plus rentrer chez elle, hantée par des idées sombres, par une obsession violente d'en finir immédiatement avec tant d'épreuves.